La SEC accentue sa surveillance du secteur crypto, ciblant désormais Uniswap Labs. Le régulateur a émis un avis de Wells contre Uniswap Labs qui a confirmé l'information tout en se disant prêt à se défendre. Alors, qu'est-ce qui est reproché à Uniswap ?
Le Crypto Daily.
Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi.
Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du retour de KuCoin en Inde avant de s'intéresser au comportement des mineurs à l'approche du halving. Alors, j'ai une voix un peu rocailleuse, c'est normal, on vient d'enchaîner déjà 4 jours de PBWS, de Side Event, etc. Demain, il n'y aura pas de podcast. On va se reposer tranquillement, mais en tout cas, let's go, on commence. Et avant toutes ces belles news, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Donc on a un marché qui reprend des couleurs en cette fin de semaine. On a un Bitcoin qui gagne 2% sur les 24 dernières heures pour un prix de 70 780 $. L'Ethereum suit la même trajectoire avec une hausse de 1,5% pour un prix de 3 580 $. Le BNB et le Sol gagnent respectivement 3 et 1%. Le XRP stagne avec une légère hausse de 0,7%. Le Doge gagne 5,64% tandis que le Ton continue sa hausse avec une augmentation de 10%. Et enfin, Nada gagne 1,45%. Et on commence avec la première news, la SEC qui veut s'attaquer à Uniswap. Alors, mercredi soir, le célèbre protocole de finance décentralisée Uniswap a informé sa communauté qu'il avait reçu un avis Wells de la part de la SEC, donc la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Alors, bien que ce type d'avertissement ne constitue pas une action en justice en tant que telle, il précède bien souvent une plainte, comme cela avait été le cas pour Coinbase l'année dernière. Et sur X, Aiden Adams, un des fondateurs de l'exchange décentralisé, s'est exprimé longuement à ce sujet. Il a notamment expliqué qu'il n'était pas surpris, mais seulement agacé. Assez déçu et prêt à se battre. Je cite
« Je suis convaincu que les produits que nous proposons sont légaux et que notre travail se situe du bon côté de l'histoire. »
Il rajoute aussi
« Il est clair, depuis un certain temps, qu'au lieu de travailler à la création de règles claires et éclairées, la SEC a décidé de se concentrer sur l'attaque de bons acteurs de longue date comme Uniswap et Coinbase, le tout en laissant passer de mauvais acteurs comme FTX. »
Alors, plus loin, l'intéressé se dit également frustré que la SEC semble plus préoccupée par la protection des systèmes opaques que par la protection des consommateurs. Il estime ainsi que le combat à venir prendra des années et qu'il pourrait même aller jusqu'à la Cour suprême s'il le fallait. En parallèle des propos de son fondateur, Uniswap a aussi apporté une réponse publique, apportant des contre-arguments aux sempiternels reproches de la SEC portés contre l'écosystème des cryptos. Malgré la rhétorique de la SEC, selon laquelle la plupart des tokens sont des titres, la réalité est que les tokens sont un format de fichier numérique comme un PDF ou une feuille de calcul et peuvent stocker de nombreux types de valeurs. Et selon eux, cet argument justifie, je cite,
« Ces tokens ne sont pas intrinsèquement des titres, tout comme chaque feuille de papier n'est pas un certificat d'action. »
Et quand bien même une part des tokens échangés sur le DEX peuvent effectivement constituer des titres financiers, Uniswap rappelle la décision de justice dans le cadre de l'affaire Ripple. Et selon cette décision, je cite,
« Les transactions sur le marché secondaire des actifs numériques ne constituent généralement pas des contrats d'investissement. »
Et donc, pour ce qui est du token Uni, Uniswap indique qu'il n'existe aucun contrat ni aucune promesse entre Uniswap Labs et les détenteurs de l'actif, ce dernier ne pouvant dès lors pas être considéré comme une security.
Bitcoin n'est pas une monnaie. Entre moi et Steve Jobs, il y a un continuum. C'est moi qui ai inventé le BSA.
Ouais. Ah ouais.
Nous, en France, un business angel met 10 000 balles dans une boîte, il te casse les couilles pendant 10 ans. Yomi, il me dit, frère, t'as atteint un stade suprême, tu es un mème. Hello, c'est Oussama pour le Crypto Daily.
Let's go.
Alors, on a déjà parlé la semaine dernière, on a reçu Oussama Hamar en CryptoDrinks, on a aussi fait une interview 1v1 avec Ous, l'interview est déjà disponible, elle plaît énormément, merci beaucoup. Je vous mets bien sûr le lien en description et je vous laisse me donner vos retours. En deuxième news, KuCoin est de retour en Inde, la fiscalité. Alors, voilà le cœur du différend qui opposait en fin d'année dernière le régulateur indien et les grandes plateformes de crypto-monnaies. Concrètement, en Inde, les crypto-actifs sont soumis à une taxation de 30% qui touche aussi tous les secteurs des jeux en ligne et des paris sportifs, mais il existe aussi une taxe de 1% sur tous les transferts en crypto. Alors, évidemment, En opérant depuis l'étranger, certains exchanges pouvaient se permettre d'éviter la dîme et les consommateurs indiens ne s'en étaient pas privés. Mais après des menaces explicites du ministère des Finances du pays, le secteur a dû se plier aux exigences de la Financial Intelligence Unit et surtout se conformer aux lois locales. Et de toute manière, l'ensemble des applications crypto était devenu inaccessible depuis l'Apple Store. Et c'est ainsi que 3 mois plus tard, on apprend que KuCoin a fait ses devoirs et que la plateforme est de retour à New Delhi. Et c'est d'ailleurs la première du secteur à remplir toutes les conditions. Elle l'a fait savoir via les réseaux sociaux et a publié un article sur son blog expliquant les nouvelles obligations relatives à ses clients indiens. Il est donc bien sûr question de résider dans le pays, mais aussi d'accéder à l'exchange via une adresse IP locale, ainsi que de remplir de manière exhaustive le formulaire d'inscription et l'ensemble des vérifications. Et enfin, on peut lire noir sur blanc que la fameuse taxe de 1% sera bien appliquée à compter du 10 avril pour tous les transferts de crypto. Baptisée la taxe Deductible at Source, elle sera bien collectée par l'exchange et reversée à l'Income Tax Département, donc l'équivalent du fisc local. Le PDG de KuCoin, Johnny Liu, s'est bien entendu réjoui de cette annonce. L'Inde fait partie de ces grands pays qui s'ouvrent petit à petit à la crypto, mais qui le font en souhaitant garder le contrôle sur les acteurs opérant sur son territoire. Difficile de blâmer les autorités pour cela quand on voit comment se comportent les Américains avec les plateformes étrangères, et notamment avec ce même KuCoin, qui est d'ailleurs dans le collimateur au site de la SEC.
Merci d'écouter le Crypto Daily.
Et enfin, en dernière news, on parle des mineurs qui vendent leur Bitcoin à l'approche du halving. Le halving de Bitcoin arrive, on est à peu près à 15 jours, c'est incroyable, finalement. Les mineurs de Bitcoin réduisent leur stock à son niveau le plus bas depuis 3 ans. Et contrairement à l'approche du dernier halving Bitcoin en mai 2020, où les mineurs avaient accumulé environ 25 000 Bitcoin, les données on-chain révèlent une tendance à la vente avec une réduction du stock de 27 000 Bitcoin depuis le mois de novembre. Et la récente hausse du prix du Bitcoin atteignant des sommets historiques au-delà des 73 000 dollars, semble donc avoir incité les mineurs à prendre des profits et à vendre une partie de leurs actifs. Cette démarche, elle vise à financer l'achat de nouveaux équipements plus performants en prévision de la réduction des récompenses par bloc, donc je vous le rappelle, passera de 6,25 bitcoin à 3,125 bitcoin. Mais ça, si vous regardez le crypto show, vous le saviez déjà. En tout cas, l'investissement dans de nombreux équipements se manifeste par une hausse significative du hash rate, la puissance de calcul allouée au minage et au traitement des transactions sur la blockchain Bitcoin, avec une augmentation de 45% en 5 mois, dépassant largement les 15% observés avant les derniers halving Bitcoin. Cette montée du hash rate indique une préparation conséquente des mineurs à affronter la diminution imminente des récompenses. En parallèle, on apprend aussi grâce aux données on-chain de Glassnode que les bitcoins conservés il y a plus d'un an ne constitueraient plus que 65,8% de l'offre en circulation, contre plus de 70% il y a encore 4 mois et demi en arrière. Alors cette situation en fait elle constitue un point bas pluriannuel et il faut remonter avant mai 2022 pour trouver plus bas. Et les données partagées par Glassnode permettent également d'observer les comportements de HODL lors du précédent cycle de marché de bitcoin de fin 2018 à fin 2022. Et si comparaison n'est pas raison, on peut toujours observer que le début d'importants mouvements et de sorties de hold d'un an a toujours précédé une très forte hausse des prix du Bitcoin. En tout cas, le chef de file des cryptoactifs a même conduit son ETH 3 à 4 mois plus tard après ce début de réveil des Bitcoins. C'est donc à surveiller. Et avant de terminer, je vous laisse avec les actualités en bref avec Thomas.
Merci Benjamin, bonjour à tous. Et on commence avec le Paraguay qui revient sur son projet d'interdiction du mining. Le pays a interrompu l'avancement d'une proposition de loi visant à interdire temporairement le minage de crypto. Le Paraguay envisage désormais de vendre l'excédent d'énergie de leur centrale hydroélectrique d'Itaipu aux mineurs de Bitcoin. On continue avec MetaMask qui intègre une fonctionnalité dédiée aux chasseurs d'airdrop. L'entreprise collabore avec Daylight pour introduire une fonctionnalité décelant l'éligibilité des utilisateurs à des airdrops. Cette initiative vise à simplifier l'accès aux airdrops sans nécessité de connexion directe. Le verdict pour Ryan Salamé, ex-cadre de FTX, est attendu pour le 28 mai prochain. Pour rappel, ce dernier a plaidé coupable. Il avait notamment avoué sa participation à des contributions politiques illégales et à l'opération d'une entreprise de transmission d'argent sans licence. Le géant VanEck est pessimiste sur l'approbation des ETF Ethereum, contrairement à l'optimisme affiché pour l'approbation des ETF Bitcoin. Yann VanEck, PDG de VanEck, a fait part de son pessimisme pour les ETF Ethereum. Selon lui, les demandes pour les ETF Ethereum devraient être rejetées. Et on termine avec Coinbase qui intègre Apple Pay pour permettre aux utilisateurs britanniques d'acheter des cryptos. Avec plus de 6 millions d'adultes au Royaume-Uni possédant déjà des crypto-monnaies, cette nouvelle fonctionnalité vise à simplifier l'accès aux cryptos.
Et c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi, bon week-end.
C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.